Bonsoir Amélie Nothomb.
Bonsoir Sylvie.
Bienvenue en tout cas à la librairie Mola. Nous sommes très heureux et heureuses de vous accueillir ce soir pour cette rencontre avec votre public bordelais. Et comme vous voyez, nous ne sommes pas rancuniers. Vous buvez du champagne, vous faites l'éloge du champagne dans Pétronille. Et nous, dans le bordelais, bien, nous vous accueillons comme une reine.
J'avais peur d'être lapidée, mais j'en profite pour dire que j'aime aussi énormément les vins de Bordeaux. Mais ça n'est pas la même posologie.
C'était la réponse que j'attendais. Alors, vous connaissez peut-être le dicton « Pluie de Sainte-Pétronille change raisin en grappille ».
Ah non, je ne connaissais pas, quel beau dicton. Mais tout converge. J'ai écrit ce livre sur une grande amie qui ne s'appelle pas Pétronille, puisqu'elle s'appelle Stéphanie Hochet. Il a fallu la rebaptiser en fonction de mon code particulier que tous mes personnages significatifs ont un prénom à coucher dehors. Je me suis demandé quel était son prénom à coucher dehors. Pétronille m'est apparue assez vite parce que je voyais en elle le féminin de Pétrone. Pétrone, l'auteur du Satyricon, l'arbitre des élégances, ça lui convenait bien. Mais finalement, j'ai donné ce nom un peu au hasard. Depuis que je lui ai donné ce nom, tout converge. Elle devait vraiment s'appeler Pétronille. Tout ce que j'ai appris sur ce prénom depuis que mon livre s'appelle Pétronille. Pétronille était la sœur d'Aliénor d'Aquitaine. Ça doit vous dire quelque chose, Aliénor d'Aquitaine. Et la sœur d'Aliénor d'Aquitaine était une vraie garce. C'est à cause d'elle qu'ont eu lieu les croisades. Aliénor était plutôt une brave femme et elle a convaincu sa sœur d'envoyer tous les gens aller faire la pire croisade qui ait jamais eu lieu. Donc Pétronille était sanglante et si on lit mon livre, on se rend compte que ma Pétronille à moi aussi est sanglante.
Elle est cruelle, hein ?
Oui, les Pétronilles sont terribles. Je dis ça sans parachute, parce que c'est un prénom qui est en train de revenir. J'ai de plus en plus de jeunes lectrices qui s'appellent Pétronille, donc à mon avis, ça va très mal finir pour moi.
Alors effectivement, vous l'avez remarqué dans la salle aussi, il y a beaucoup de jeunes lecteurs et lectrices, hein, et vous avez toutes les générations en fait devant vous. Beaucoup de lecteurs et de lectrices qui sont fans, et ça depuis vos débuts.
Depuis 22 ans. Alors, c'est terrible ce que vous dites, parce que je vois parmi les lecteurs et les lectrices qui sont là ceux qui n'étaient pas nés quand j'ai publié mon premier livre. Et là, je vous assure que ça fiche un coup.
Alors, pour en revenir à Pétronille, dans la légende dorée, c'est une autre version, puisque là, Pétronille est la fille de Saint-Pierre. Elle a la fièvre pour atteindre la sainteté. Son père, Saint-Pierre, la guérit de la fièvre passagèrement, et puis quand elle est demandée en mariage par Flaccus, elle préfère revenir à la fièvre et en mourir. Est-ce que vous connaissez cette légende dorée ?
Je ne connaissais pas, c'est magnifique. J'adore toutes ces histoires de martyrs. Je comprends mieux pourquoi l'une de mes premières ambitions à l'adolescence était de devenir sainte. C'est tellement beau ces destins, on est vierge, on est martyr, on meurt, c'est beau. Mais ça n'a pas marché. Donc voilà, maintenant je me suis recyclée en écrivain qui boit du champagne à Mola.
Mais ce n'est qu'un petit épisode dans votre vie si romanesque, parce qu'on a l'impression quand même que votre vie est un petit peu le matériau romanesque de vos romans. Enfin, en tout cas,
c'est l'un des matériaux. C'est l'un des matériaux. Je ne suis pas toute seule dans cette histoire. Pétronille le signifie bien. Pétronille, ce n'est pas mon histoire, c'est votre histoire. Toutes et tous, parce que pourquoi il n'y aurait pas un Pétronio, hein ? Pétronille, c'est l'histoire de mes lecteurs. Mes lecteurs, c'est pas n'importe qui. Mes lectrices, c'est pas n'importe qui. Je commence très sérieusement à me dire que j'aurais toute une carrière à faire à écrire un roman par lecteur. Vous imaginez où ça m'entraînerait. Mais c'est vrai qu'il se noue. Je vois tellement de visages émerger parmi vous et avec qui j'ai des correspondances sérieuses, assidues, des relations vraies. Des gens dont j'apprends à découvrir les mystères. Je vous assure, sans aucune démagogie, que je pourrais écrire presque un roman par lecteur et que ce serait absolument fascinant. Je ne le ferai pas, je vous rassure, parce que vos secrets seront bien préservés. Mais après tout, Pétronille, c'est exactement ça. Pétronille, qu'est-ce que c'est ? À la base, c'est une lectrice. C'est une jeune femme qui est venue me rencontrer en 97, qui m'a fascinée et dont j'ai écrit l'histoire. Ben, ça pourrait être vous, c'est tragique. Bon, tout ce qui s'est passé depuis 97, quelques années ont passé, j'ai bu beaucoup de champagne depuis. Mais le champagne n'est jamais que le kérosène. Je suis pleine de kérosène, là. Si vous avez un roman à me faire écrire, c'est le moment d'arriver.
Ça, c'est pour féconder, finalement, votre inspiration.
Mais
après,
oui.
C'est plutôt du thé noir que vous buvez.
Voilà, je pratique deux ivresses. L'après-midi, c'est l'ivresse que nous qualifierons de dionysiaque, c'est l'ivresse où je me lâche. C'est très risqué parce qu'après je rencontre mes lecteurs chez Mola, je raconte n'importe quoi et c'est filmé sur internet et ça restera, c'est tragique. Le matin, je pratique l'ivresse que je qualifie de sèche, c'est-à-dire l'ivresse contrôlée. Cette ivresse-là s'obtient par l'absorption extrêmement rapide d'un demi-litre de thé trop fort à 4 heures du matin. Cette ivresse-là, c'est le contraire. C'est une ivresse extrêmement maîtrisée, très désagréable. Aussi désagréable que celle-ci est agréable. Mais qui me permet d'écrire. C'est-à-dire que j'ai essayé d'écrire sous champagne. Ça ne marche absolument pas. Il faut quand même le dire, écrire, c'est pas rigolo. Écrire, c'est du sérieux. C'est, à ce moment-là, on peut simuler que c'est rigolo, mais ça ne l'est pas. Il s'agit de créer son son. Je suis écrivain parce que je ne suis pas compositeur. Si j'avais pu choisir mon talent, je serais compositeur. Étant écrivain, je crée mon son au rabais, mais c'est quand même très maîtrisé. Je sais exactement quelle sensation je veux me procurer moi et par extension vous procurer à vous. Le thé noir très fort, à haute dose, bu en un trait, a ce mérite de faire exploser mon cerveau sans faire exploser mes capacités de contrôle sur moi. Grâce à quoi j'obtiens... Ça n'a l'air... Enfin, je suppose que ça n'a l'air de rien. Quand on le lit, je vous assure que ça suppose une vraie paranoïa d'écrire comme ça. Parce qu'à la fois, on y est, on vit son histoire d'amour à fond, on donne tout. Et à la fois, on se contrôle à fond. Imaginez ça. Ça donne Petroni.
Alors, vous parlez d'histoire d'amour avec l'écriture elle-même ?
Avec l'écriture elle-même... Régulièrement, on me demande quel est le meilleur moment de mes journées. Mes journées sont plutôt belles. J'ai la vie dont tout le monde rêve. Je vis de mon art. Peu de gens vivent de leur art. J'ai conscience de ça. Et malgré tout, c'est extrêmement dur. Ça suppose quand même de se réveiller tous les jours de sa vie à 4 heures du matin. Essayez vraiment d'imaginer ça. Ce n'est pas une blague. Je me réveille tous les jours de ma vie à 4 heures du matin. Parfois plus tôt, jamais plus tard. Je vous assure qu'au moins une fois par jour, je maudis ma vie. Quand je me réveille, je maudis ma vie. Bon, après coup, maintenant c'est merveilleux, évidemment. Je bois du Bollinger, je vous vois, c'est formidable. Mais il y a quand même eu ce moment du matin où ça m'a paru insurmontable, où il fallait se réveiller, boire le demi-litre de thé noir trop fort, s'y mettre, obtenir le bon son, ne pas être sûr du tout d'y arriver. C'était très... Finalement, c'est un vrai martyrologue.
En tout cas, ça ressemble à une ascèse.
Je vis vraiment une ascèse paradoxale parce que c'est tous les jours, sans exception. Ça commence par une véritable ascèse. C'est parfaitement inhumain. Et presque tous les jours, parce que je ne bois pas tous les jours de l'alcool, un jour sur deux, ça se termine dans la véritable débauche. Donc, c'est... Ça donne une impression de double vie très forte. Il y a le moi esclave qui se réveille tous les matins à 4 heures du matin pour vivre quelque chose de très dur, de certes fascinant, parce que écrire est très dur, mais c'est tellement fascinant. Et puis l'autre moi, qui est le moi paillard, débauché, qui va chez Bola boire du Bollinger, et je suis ces deux personnes.
Vous êtes ces deux personnes avec une maîtrise parfaite, parce que quand vous dites que vous buvez un jour sur deux, c'est pour être à jeun le jour où vous buvez. Donc c'est quand même très prémédité.
C'est très... Oui, c'est terrible, parce que vous savez que quand on est criminel, quand il y a préméditation, c'est beaucoup plus grave. Donc je peux vous le confirmer, il y a préméditation. Donc je sais que parmi vous, il y a quelques juristes. S'il vous plaît, trouvez une clause pour que mon procès soit défendable.
Alors, je pense que si vous vous astreignez à un tel travail, d'autant plus que seulement le quart en est visible, puisque vous publiez seulement un des quatre romans que vous écrivez en moyenne chaque année, c'est bien ça ?
C'est bien ça. Je suis en train d'écrire le 81e.
81e. Et donc celui-là qui est donc publié...
77e.
77e. Je ne les ai pas comptés parce que la liste était tellement, tellement longue. Donc, vous travaillez en grande partie, finalement, pour vous-même, puisque
c'est
vous
vrai.
Pensez ne pas les publier, ces trois quarts-là.
Oh, je ne le pense pas, j'en suis sûre. Je peux vous dire que le testament est déjà rédigé. J'adore dire le testament en cas de décès, parce que ça laisse supposer qu'il y a une échappatoire. À ma mort, qui viendra bien un jour, ces romans ne seront pas publiés. Et ils seront protégés, puisqu'il est stipulé dans le testament que ce qui n'est pas publié doit non pas être détruit parce que ce sont mes enfants, mais doit être coulée dans un bloc de résine. La résine est finalement la seule protection fiable. J'ai essayé le Vatican. Le Vatican, ça aurait été encore mieux, mais le Vatican n'a pas répondu. La résine, même sans foi ni loi, la résine est disponible. Alors, si on coule ses livres dans le béton, dans le béton, c'est moche. Dans la résine, en plus, le béton est destructible. La résine n'est pas... On peut rien contre la résine, finalement. C'est oui. Formidable, la résine, si vous y réfléchissez, parce que c'est grâce à la résine qu'on a découvert l'électricité. C'est fascinant, tout ça.
Oui, mais
néanmoins,
Kafka
je suis en train de vivre
fait...
une vraie tragédie. Mon verre est presque vide.
Kafka avait fait la même promesse et exécuteur testamentaire, Max Brod, ne l'a pas du tout respecté. Alors, heureusement pour nous, d'ailleurs.
Alors, précisons qu'il y a quelques différences. D'abord, Kafka avait demandé qu'on brûle son œuvre. C'est très inhumain. Je ne demande pas qu'on brûle mon œuvre, je demande qu'on la coule dans un bloc de résine. Deuxièmement, je vous assure que le patrimoine mondial de l'humanité peut remarquablement se passer de mon œuvre non publiée, alors que sans Kafka, on serait quand même un peu mal. Sans Kafka, toute personne se rendant dans l'administration ne comprendrait absolument pas ce qui lui arrive. Grâce à Kafka, toute personne qui se rend dans l'administration sait que ce qui lui arrive, c'est tout simplement ce que Kafka avait prévu. Donc voilà, le bloc de résine, je pense que l'humanité y survivra très bien.
En même temps, sans l'œuvre d'Amélie Nothomb, il manquerait quelque chose au monde actuel. Un regard distancié, humoristique, d'autodérision, à la fois tragique et cocasse, c'est votre singularité.
Alors, ce que vous me dites me touche infiniment, et j'ai eu quelques échos de lecteurs qui m'ont dit des choses magnifiques sur ce que mes livres avaient pu leur faire. Je vous jure que je ne vais pas me rendre ici coupable de fausse modestie ou d'hypocrisie. Je vous donne ma parole d'honneur que je suis bien incapable de savoir quel effet ça fait de me lire. J'aimerais savoir. Pour moi, c'est si court. C'est-à-dire que l'histoire d'amour est intense que je vis avec ce que j'écris est tellement brève. Il y a le moment d'écriture qui n'est pas long, 3 mois. Il y a le moment de relecture qui est encore moins long. J'ai remarqué, j'ai pu compter depuis le temps que ça dure, que j'ai droit à 4 relectures. Croyez-moi, 4 relectures, c'est pas beaucoup. Et au-delà de 4 relectures, c'est fini pour toujours. C'est-à-dire que s'il m'arrive au-delà de 4 relectures de me lire, ça n'a tout simplement plus aucun sens. C'est comme des cornflakes mâchés. C'est nul. Je me dis, ah bon, vous lisez ça? Oui, c'est moi qui ai écrit ça. Ça n'a plus aucun sens pour moi. Donc, c'est vrai que je vis une histoire d'amour extrêmement forte avec ce que j'écris, mais qui dure tellement peu de temps. Quant à savoir l'effet produit pour les autres, c'est ce que je ne saurais jamais. Je crois que c'est pour ça que mon histoire d'amour avec mes lecteurs est si forte. C'est parce que vous connaissez quelque chose qui m'échappe. Pour vous, ça peut peut-être durer un peu plus longtemps. Pour vous, ça peut signifier un peu plus que pour moi. Moi, je sais qu'au moment où je l'ai écrit, c'était si fort. Et après, c'est fini pour toujours. En fait, je vous jalouse infiniment parce que vous savez ce que je ne sais pas.
Oui, c'est ce qui vous rend aussi curieuse de vos lecteurs aussi.
Pas que ça. Ce serait un intérêt purement nombriliste à ce moment-là. Mais aussi, parce qu'il faut bien le dire, vous êtes fascinant. Les caractéristiques de mes lecteurs sont réellement fascinantes. Avec cette chose de plus que j'ai beaucoup constaté aujourd'hui aussi, mes lecteurs sont beaux. Alors ça me fascine. Je suis lue par de belles personnes. Je songe à rajouter en 4e de couverture cette clause « Livre pour belles personnes ».
Mais la beauté ne se voit pas toujours à l'extérieur. Et en même temps,
mais souvent quand même. Hein.
Oui, mais elle peut être subjective. Vous parlez justement des propos de votre grand-mère qui vous trouvait laide et qui vous le disait. Vous n'êtes peut-être pas la mieux placée, ni pour juger vos livres, ni pour juger de votre beauté.
Oui, mais là aussi, c'est trop tard. J'ai été publiée à l'âge de 25 ans. Il était déjà trop tard. Jusqu'à l'âge de 25 ans, à part Rinri, le fiancé japonais, tout le monde m'a toujours dit « qu'est-ce que t'es moche, qu'est-ce que t'es moche, qu'est-ce que t'es moche ». Ça m'a marqué, si vous saviez. Alors depuis, c'est passé un truc miraculeux. Des grands photographes se sont intéressés à moi. Je suis photographiée par des grands photographes. Si vous saviez quel effet ça fait quand on a toujours été moche d'être photographiée par de grands photographes. Et alors après, il y a des gens qui me disent « ah, vous êtes belle ». Alors, c'est impossible à croire quand on vous a dit jusqu'à vos 25 ans que vous étiez moche, mais ça fait du bien quand même. Donc l'énigme perdure, l'énigme qui est valable pour mes livres est valable pour moi aussi. Je ne saurais jamais finalement Mon intime conviction est que ma grand-mère avait raison. Enfin, Dieu et son âme. Mais c'est pas pour ça qu'il y a ma tête sur mes livres. Hein. C'est une volonté éditoriale, mais ça fait toujours bizarre. Chaque fois que je mets ma tête sur mes livres, je dis à ma grand-mère, tu vois, quand même, mon éditeur a pensé que c'était possible de faire lire mes livres avec une gueule pareille.
Et vous dites aussi que vous écrivez sous une espèce de nécessité vitale.
Ça, c'est certain.
À la manière de Rilke, dont vous aviez lu justement la lettre à un jeune poète, très jeune.
Je l'ai lu à 17 ans et ça a été la lecture qui a le plus changé ma vie. Bon, tous les livres que j'ai lus ont changé ma vie, particulièrement pendant mon adolescence. Mon adolescence a été sauvée par ma pratique assidue, carnassière de la lecture. Mais sans aucun doute, le livre qui a le plus changé ma vie a été Lettre à un jeune poète de Rilke, et particulièrement la première des lettres, celle dans laquelle il fait la première réponse au jeune poète. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, qu'est-ce que c'est Lettre à un jeune poète ? Un jeune poète envoie ses poètes à Rilke, grand écrivain autrichien, immense écrivain autrichien qu'il faut lire, et lui pose la question à 1000 dollars que j'ai encore reçue aujourd'hui. Maître, sauf que moi c'est maîtresse, enfin je suppose, que pensez-vous de mes poèmes ? Et Rilke fait cette réponse absolument admirable qui est entrée dans l'histoire de la littérature. Au lieu d'écrire une lettre rien qu'au jeune poète, il en fait un livre. Lettre à un jeune poète. Et dans la première lettre, il y a ce texte sublime que tout être humain devrait avoir lu, qui en tout cas a changé ma vie. C'est « Jeune homme, je pourrais vous dire ce que je pense de vos poèmes. Je pense que vos poèmes ne sont pas très bons, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. La vraie chose que je dois vous dire... ce n'est pas ce que moi je pense de vos poèmes. Ça n'a pas d'importance ce que moi je pense de vos poèmes. La seule chose que je dois vous dire, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin de vos poèmes ? Est-ce que vraiment vous pourriez continuer à vivre sans avoir écrit vos poèmes ? C'est la seule question que vous devez vous poser. Si vous pouvez d'une seule manière continuer à vivre sans écrire vos poèmes, alors arrêtez tout de suite parce que ça veut dire que vos poèmes ne sont pas importants. Si vous êtes absolument sûr que vous ne pouvez pas continuer à vivre sans écrire vos poèmes, alors continuez, parce que même si vous n'avez pas de talent, le talent viendra. Il y a 3 jours, j'ai reçu une lettre avec une citation de Jacques Brel que je ne connaissais pas, qui veut dire la même chose, qui est dite de façon beaucoup plus vulgaire, parce que Brel n'était pas forcément très distingué. On posait à Brel la question du talent, et Brel a cette réponse lapidaire et sublime. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. C'est la même chose dite en d'autres mots. C'est vrai, finalement, le talent, ça n'existe pas. Le seul critère, c'est le désir. Si votre désir n'est pas assez fort, c'est que vous n'avez pas de talent. C'est vache, mais c'est vrai. Il faut croire que finalement, mon désir était très fort. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai du talent. Je suis en train de vous dire que mon désir était très fort.
Et cette idée que les choses n'existent pas ou que vous n'existiez pas, ça fait aussi partie de vos angoisses, peut-être, ou en tout cas de
angoisses récurrentes. Angoisses récurrentes et inguérissables. Je n'ai jamais été quelqu'un d'autre que moi. Je suis absolument sûre d'avoir vécu, d'avoir existé jusqu'à l'âge de 11 ans. Après, c'est devenu infiniment plus nébuleux. Et l'angoisse me rattrape toujours que je n'existe pas, qu'en fait, je suis morte et que j'ai l'illusion d'exister et que... Bon, en même temps, vous me direz, c'est pas grave, qu'est-ce que ça peut bien faire que j'existe pas, si le monde, si j'existe mal, pas la tête, la terre. Ah, une juriste qui me défendra au procès. Si j'existe pas, la terre continue de tourner. Il n'empêche qu'une fois de temps en temps, ça me rattrape et que l'angoisse de ne pas exister est extrêmement douloureuse. Il m'est arrivé cette chose que je n'avais pas prévue. En 2001, je suis entrée dans le dictionnaire. Je vous jure que je n'avais pas prévu ce coup-là. Quand vous commencez à publier des livres, déjà vous êtes dans la quatrième dimension, vous ne vous imaginez pas un quart de seconde que vous allez peut-être entrer dans le dictionnaire. Je suis entrée dans le dictionnaire. Moi qui ai tellement vécu dans les mots, qui ai lu entièrement le dictionnaire à l'âge de 13 ans, je crois que ça m'a fait plus d'effet que n'importe quoi d'entrer dans le dictionnaire. Peut-être que j'existe si je suis dans le dictionnaire, parce que ça veut dire que je suis un mot. Amélie Nothomb, c'est un mot, c'est dans le dictionnaire. Oui, mais ce n'est pas tout à fait guérissable parce que chaque année, on publie une nouvelle version du dictionnaire. Est-ce que je suis toujours dans le dictionnaire ?
Et voilà. Toujours en sursis.
C'est à la fois une guérison et une malédiction. C'est toujours l'été qu'on publie les nouveaux dictionnaires et Il peut m'arriver d'avoir des crises et je présente d'emblée mes plus sincères excuses envers tous les vendeurs de la FNAC, surtout de la FNAC Montparnasse, qui est la FNAC la plus proche des éditions Albin Michel, qui ont régulièrement vu arriver une créature folle, prise d'une crise de non-existence, qui a non seulement ouvert la nouvelle édition du dictionnaire, ce qui est déjà assez grave, mais toutes les nouvelles éditions du nouveau dictionnaire, parce que quand la crise commence, il ne suffit pas de vérifier un dictionnaire, il faut vérifier tous les dictionnaires. Donc vous m'imaginez à la FNAC Montparnasse en train de déchirer les chemises en plastique de tous les dictionnaires 2015, pour voir si j'existe toujours. Oui.
Est-ce que c'est lié aussi à ce nomadisme culturel qu'on a cité à propos de vous,
étant sûrement,
trimballé, entre guillemets, de déménagement en déménagement?
Mais là encore, j'ai jamais été quelqu'un d'autre que moi, donc je suppose que dans mon cas, ça s'existe comme ça, ça s'explique comme ça, mais je suis sûre qu'il doit y avoir d'autres explications. Je suis sûre que parmi vous, il y a d'autres personnes qui n'existent pas et qui savent combien c'est douloureux de ne pas exister. Dans mon cas, je pense que l'explication, en effet, ça a été le déracinement. Je suis née nulle part. J'ai pas cessé de... Enfin, nulle part, c'était très bien, c'était le Japon, mais c'était nulle part parce que c'était tout le temps précaire. Chaque fois que j'aimais un lieu, chaque fois que je m'installais quelque part, je savais que j'allais perdre ce lieu. Je savais que j'étais une veuve en sursis du lieu que j'aimais, des gens que j'aimais. Et ça ne s'est jamais démenti. J'ai toujours tout perdu, le lieu que j'aimais, les gens que j'aimais. Ça crée une angoisse très forte.
En même temps, c'est un moteur puisque ça vous amène à découvrir une nouvelle culture et peut-être que Dans Petroni, vous découvrez aussi la France un petit peu.
Je vous découvre, vous. Vous, les Français, enfin, les Bordelais, j'imagine que c'est un chapitre à part, mais je ne le connais pas encore assez bien. Mais les Français, c'est déjà quelque chose, je vous assure. Pour vous, c'est évident d'être Français. Pour moi, vous connaître, vous, les Français, c'est une aventure à part entière. Tous les jours, je sors de chez moi pour aller chez mon éditeur chercher mon courrier et y répondre. Et tous les jours, quand je regarde le ciel en sortant de chez moi, je me dis, ça, c'est le ciel de la France. T'es pas chez toi ici. C'est le ciel de la France. Je vous jure que c'est ma première pensée tous les matins. De même que c'était ma pensée au Japon, de même que c'était ma pensée en Chine, de même que c'était ma pensée au Bangladesh, en Birmanie, au Laos, à New York, etc. Et même en Belgique, parce que bien qu'étant belge, il m'a fallu du temps pour comprendre ce que ça voulait dire. Mais soyez sûr que la France, c'est pas mon pays. Et je dis ça avec tout l'amour du monde, parce que j'ai presque toute ma vie vécu dans pas mon pays. Et j'adore ça, en fait. J'adore ne pas être dans mon pays. J'adore tous les matins me dire que je dois définir mon nouvel environnement. Les indigènes. Ouh. Bon, on a trouvé un terrain d'entente.
Longtemps, vous avez pensé que vous étiez japonaise. Peut-être que cette conviction a changé à partir de 2012 quand vous êtes retournée au Japon, parce que là vous dites que vous adorez finalement vous sentir toujours à l'étranger, y compris au Japon.
Oui, mais c'est nouveau pour moi parce que petite, j'étais tellement persuadée d'être japonaise. J'avais deux mamans, je les aimais autant l'une que l'autre, la belge et la japonaise. J'ai connu très tôt la double vie, avec toute la culpabilité que ça suppose. Il y a deux mamans, on les aime autant l'une que l'autre. Comment le leur dire? Et puis j'ai été arrachée au bras d'une des deux mamans quand j'avais 5 ans. Et je pense que c'est ce qui m'a fondée, c'est d'être arrachée au bras de la maman japonaise. Et je m'en suis jamais remise. Et je suis revenue bien des années plus tard. Et puis j'ai de nouveau quitté le Japon. Et puis je suis revenue encore bien des années plus tard. Et j'ai retrouvé la maman japonaise. Et j'étais grande entre-temps, j'étais plus grande qu'elle.
Oui. Chacun peut voir les images sur Internet. C'est un film qui a été réalisé pour Arte, justement, en 2012.
Oui.
Et on vous voit également aller sur les lieux de Fukushima, un an après, alors que tout est encore complètement détruit. Et ce qui est étrange, c'est que vous dites que le Japon vous a guéri, enfin, que vous êtes allée au Japon...
C'est tellement curieux. Quand je suis retournée au Japon, la première fois, j'avais 21 ans. À 21 ans, je n'allais pas bien. J'avais une maladie alimentaire dont je ne sortais pas. Beaucoup de mes lectrices sont atteintes de la même maladie. Et curieusement, retrouver le Japon, ça m'a sauvée. Ça m'a sortie de cette maladie. Je ne dis pas que, si ça se trouve, peut-être que toutes les anorexiques devraient aller au Japon. Peut-être que c'est simplement ça le secret. Peut-être qu'il suffit d'aller au Japon pour guérir. Je sais pas. Je crois que beaucoup de lectrices anorexiques m'écrivent, je leur dis toujours, partez. Vous êtes malade, partez. Allez très loin. Ce qui est formidable quand on part très loin, c'est qu'on a l'impression de tout recommencer. Mon cas était particulier en ceci que je partais et qu'en même temps je revenais. Ça m'a guéri. Bon, depuis je bois du champagne, on s'en remet, hein, très bien.
Et écrire aussi, ça vous a sauvé.
Ça m'a sauvé aussi, mais j'écrivais déjà avant mon retour au Japon et ça ne marchait pas. C'est vraiment de retourner au Japon qui m'a donné cette énergie-là, parce qu'on me demande souvent ce qu'il faut pour écrire. J'imagine qu'il faut beaucoup de choses pour écrire, mais je crois que plus que tout, ce qu'il faut pour écrire, c'est une énergie phénoménale. Parce que c'est fatigant, croyez-moi. Et cette énergie, je l'ai retrouvée au Japon. Il y a quelque chose dans le sol japonais. Enfin, dans mon cas, il y a eu quelque chose dans le sol japonais. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans le sol japonais. Est-ce que c'est parce qu'il est volcanique ? Est-ce que c'est parce qu'il est sismique ? Il y a quelque chose dans ce sol. Mais quand j'ai retrouvé ce sol, j'ai eu l'impression de retrouver quelque chose que j'avais perdu. Et j'ai retrouvé cette énergie, et c'est à ce moment-là que mon écriture, qui était bien faiblarde, est tout à coup devenue cette écriture-là. Je pense que ce n'est pas un hasard. Maintenant, est-ce que ça doit forcément être le Japon ? J'en sais rien, j'ai jamais été que moi. Peut-être que chacun a son Japon, peut-être que c'est un vignoble du Bordelais, peut-être que c'est la Belgique, je ne sais pas. Dans mon cas, ça a été le Japon. Trouvez votre Japon.
Alors, une fois de plus, vous nous fascinez avec ce roman, Pétronille, qui, comme les autres, comme la plupart des autres, va de surprise, en tout cas ménage la surprise jusqu'au bout. Et donc, il y a aussi une sorte d'intérêt presque policier dans ce que vous écrivez. Or, vous n'avez jamais, à ma connaissance, écrit de roman policier.
J'adore votre question. Le roman policier est le grand apport de la littérature du XXe siècle à la littérature. On a mis du temps, je crois que c'est grâce à Simenon qu'on a compris finalement que le roman policier, c'était de la très grande littérature. Pourtant, Simenon, qu'est-ce que c'est sinistre. Mais Simenon, qui a ses écritures toutes nues, tellement sinistres, tellement radées et pâquerettes, a le mérite de faire ressortir finalement ce qui est la grande question du roman policier et qui est finalement très proche de l'enjeu de la littérature. C'est, tiens, on meurt. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est peut-être ça la grande question de la littérature. Peut-être pas, tiens, on meurt, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça la question de la littérature. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était pas une bête question de la poser sous l'angle de la littérature policière, parce que l'associer à la mort, c'est pas idiot. C'est pas si naturel de mourir. On sait tous qu'on va mourir, mais c'est pas si naturel. Comment ça se passe ? Donc, il y a un enjeu, je crois, policier dans toute littérature, et certainement dans la mienne. Dans presque tous mes livres, il y a quelqu'un qui meurt. Pas dans les livres autobiographiques, mais je vous rassure, la question est seulement en sursis. Qu'est-ce qui fait qu'on meurt ? Est-ce que c'est pas parce que, tout simplement, cette situation est parfaitement intenable qu'il faut bien trouver une porte de sortie ?
C'est peut-être un passage, comme la naissance est un passage aussi, comme l'accouchement de vos livres est un passage.
Vous vous rendez compte que je suis enceinte pour la 81e fois ? Ça me sidère, ça m'est arrivé tellement de fois de tomber enceinte. J'ai mené toutes mes grossesses à leur terme, je suis quand même impressionnante, hein, et c'est pas fini. Oui, c'est un vrai mystère. Qu'est-ce qui fait que tout à coup une étincelle surgit et que tout à coup... Il n'y a plus le choix, il faut écrire ça.
Et ça ne vient que de vous. Enfin, je veux dire, ce n'est pas vos lecteurs qui vous suggèrent un livre et ça ne marche pas.
Ça ne marche pas, ils ont déjà essayé. C'est pas si facile que ça de me mettre enceinte. Mais en même temps, vous pouvez continuer, j'aime beaucoup, j'ai l'idée. Peut-être que ça arrivera un jour, vous imaginez. Alors ça, l'écrivain fécondé par tous ses lecteurs.
En tout cas, pour Pétronille, ça a marché, puisque vous l'avez dit vous-même, à la base, c'était une lectrice. En tout cas, c'était une fan, c'était plus qu'une lectrice quand même.
Oui, oui.
Vous l'avez inspirée aussi.
Mais oui, c'est très... Alors oui, donc Pétronille, la véritable Pétronille, c'est Stéphanie Hochet, qui est devenue entre-temps cet écrivain très estimé et ô combien admirable. Mais combien de fois dit, j'écris des livres parce que tu écris, parce que... quand j'ai découvert ton existence, j'avais 17 ans, je pensais qu'être écrivain, c'était inaccessible. Puis je t'ai vu à la télé, je me suis dit, si celle-là y arrive, moi, je peux le faire. J'adore cette idée. J'adore que des gens aient pu penser, en me voyant à la télé, oh, si celle-là y arrive, je peux le faire. Ils ont raison, c'est vrai. Hein. Si moi, j'y arrive, vous pouvez le faire. Je comprends très bien cet argument. Et en même temps, il n'y a pas que ça. Hein. Bien sûr qu'on peut être une bouffonne belge et y arriver... En même temps, la question est plus mystérieuse que ça. Il faut atteindre un certain degré de porosité. Je crois que c'est de la porosité, finalement. Beaucoup de gens me demandent c'est quoi le secret, comment on y arrive. Il faut être creuse, finalement.
Mais là, c'est le paradoxe du comédien.
Mais oui, c'est vrai.
Il faut être disponible à la manière dont un comédien se remplit de son personnage.
Oui. Il faut être vide, mais pas complètement. Parce que si on est complètement vide, ça ne donne rien. Il faut trouver le bon degré de vide. Je vous rassure, c'est très difficile. Ça se reproduit tous les 3 mois. Tous les 3 mois, je dois retrouver le bon degré de vacuité. C'est-à-dire que si on est tout à fait vide, il ne se passe rien. Si on est complètement plein, il ne se passe rien du tout. Il faut être juste un peu vide. Je ne sais même pas comment j'y arrive.
En même temps, il faut avoir cette musique dont vous parliez tout à l'heure. Comme Simenon a une musique bien particulière, vous avez aussi la vôtre.
Il faut le désir de la trouver. Là encore, c'est vraiment une histoire de désir. Cette musique n'est pas en moi. Il faut le désir de la trouver. La musique est ce qui est de plus indispensable au monde. Trouver ce son-là, dans mon cas, c'est un tout petit son, mais c'est quand même le mien. C'est tout ce que je peux faire. Trouver ce son-là suppose en effet un très grand vide, mais un vide pas complètement absolu. Il faut qu'il reste une toute petite tonalité. Et à partir de cette tonalité-là, faire ce petit son-là.
Comme disait Musset, mon verre est petit, mais je bois dans mon verre.
J'adore. Musset, il a tout trouvé. Et en même temps, il a cette phrase sublime qui est totalement fausse. Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Oui. C'est totalement faux. Le flacon importe tellement. Le verre est sublime. Le verre est sublime. Rien que pour ça, il a eu raison de l'écrire, puisque ce verre sonne si bien. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, je le cite enfin bien. Mais c'est pas vrai. Le flacon importe terriblement. Et le flacon, c'est moi. Vous imaginez la responsabilité.
Oui. Donc Petronille, au prénom si original, mais qui va lancer la mode des Petronilles, ça j'en prends le pari.
Il y en a déjà quelques-unes.
Oui, mais qui ne vous sont pas imputables.
Mais maintenant, ça va le devenir.
Voilà. Et elle a aussi un nom de famille, Fanco, et j'ai trouvé que Fanco, c'était le nom du valet au jeu de cartes, et je trouvais que ça lui allait bien aussi.
Ah, je ne savais pas ça. Écoutez, Stéphanie Hochet, ce n'est pas du tout un nom pour mes romans, quoi. C'est un nom normal. En même temps, le personnage, tous ceux qui la connaissent, je vois ici quelques personnes qui la connaissent, savent que c'est juste une personne impossible. Elle a tellement mauvais caractère. Elle est toujours tellement fâchée. Bon, elle est violente. En même temps, elle a du talent, mais elle est tellement violente. Comment la supporter au quotidien? Bon, finalement, je la supporte. À qui elle me fait penser? Alors, je me suis dit, comment lui, la transposer Petronille, je vous ai expliqué. J'ai pensé à elle. Elle est d'origine andorrane, espagnole. Elle vient d'un milieu prolétarien. J'ai pensé à John Fante. Fante, qui est ce magnifique écrivain, tous ceux qui ont lu John Fante, Demande à la poussière, tout ça, c'est tellement beau. Je me suis dit, et si j'en faisais un Fante espagnol, andorran? Donc Fante, Fanto, bon voilà, Petronille Fanto. Elle n'était pas contre. Je lui ai donné un droit de veto. Avant de l'apporter à mon éditeur, j'ai apporté Petronille à Stéphanie Hochet. Je lui ai dit, s'il y a quelque chose qui te dérange, tu corriges. Tout lui allait, sauf une chose que je n'ai pas corrigée. Elle a dit, comment est-ce que tu oses dire que j'ai fait pipi entre deux voitures? Et j'ai dit, parce que tu as fait pipi entre deux voitures. Nous avions bu.
Mais vous l'excusez bien quand même avec la référence à Marlowe et à Shakespeare.
C'est tellement Marlowe. Voilà. Écoutez, c'est tellement Marlowe. Enfin, déjà, vous la voyez, Marlowe est un paradoxe vivant. Beaucoup de gens ont dit que les œuvres de Shakespeare étaient imputables à Marlowe. Moi, je ne le pense pas. Je pense que Shakespeare était Shakespeare. Mais j'aime bien toutes ces histoires. Finalement, le comble de la classe pour un écrivain, c'est d'être soupçonné de ne pas avoir existé. Et Shakespeare, avec Homer, est l'écrivain dont on a le plus dit qu'il n'avait pas existé. Quelle classe. Peut-être qu'un jour, on dira que je n'ai pas existé. Ça sera le sommet de la classe. Peut-être que ce jour-là, on dira que c'est Stéphanie Hochet qui a écrit mes livres. Bon, je vous le dis, franchement, c'est moi qui ai écrit mes livres. Mais si ça devait être quelqu'un d'autre, que ce soit Marlowe, c'est-à-dire Stéphanie Hochet, j'aime bien cette idée.
Oui. Il y a beaucoup de convergences d'ailleurs entre vos thèmes préférés, même dans vos livres. Enfin,
oui,
dans les livres
il y a quelque chose.
Hochet.
Il y a quelque chose parce que c'est la même histoire. C'est très violent finalement. C'est très violent. Peut-être un peu plus policé chez moi, mais c'est la même violence. Ça commence dans l'enfance, ça se passe mal. C'est souvent des relations entre femmes qui dégénèrent. Et ça devient ça.
Bien. Alors, dans Hygiène de l'assassin...
Vous ne buvez pas vraiment votre champagne, hein, Sylvie.
Bien. Alors, il faut que je
vous
lance.
Moi, je bois le mien. Hein.
Il faut que je vous lance sur un sujet. Si je bois mon champagne.
Lancez-moi.
Est-ce que vous avez envisagé une adaptation au cinéma de ce Petroni? Moi, je le verrais bien au cinéma.
Alors ça, c'est la première fois qu'on me dit ça.
Comme Stupeur et tremblement, qui a été vraiment une réussite avec Sylvie Testu.
Oui, mais alors qui pour jouer Petroni? Parce que Stéphanie Hochet m'a toujours dit qu'elle s'identifiait à Lino Ventura. Il est mort. On ne peut pas demander à Lino Ventura de jouer Petroni. Ça aurait été génial, mais on ne peut pas lui demander ça. Par ailleurs, il y a bientôt un autre film qui va sortir, qui est le Tokyo Fiancé, encore un livre autobiographique qui était ni d'Ève ni d'Adam, qui va paraître en février 2015 en France. Il est déjà paru en Belgique. C'est très troublant. J'adore ce film.
Qu'est-ce qui joue votre personnage?
Alors, vous posez là une vraie question. Ça doit être affreux pour une actrice de me jouer. Et pourtant, Sylvie Testu s'en est très, très, très bien tirée. Vous imaginez, trouver quelqu'un pour me jouer, ça me paraît inhumain. Et à chaque fois, on trouve une actrice sublime et gracieuse, Sylvie Testu déjà. Et là, pour jouer la jeune Amélie Nothomb dans Ni d'Ève ni d'Adam, c'est Pauline Étienne, jeune belge, qui s'en tire magnifiquement. Ce film est une pure merveille. Et le cinéaste m'avait prévenu, il m'avait dit, alors je te préviens, pour moi, dans Ni d'Ève ni d'Adam, les deux acteurs, donc les protagonistes, Amélie et le jeune homme japonais Rinri, pour moi, ils sont nus. Ils sont nus tout le temps. Donc, sache que les acteurs, l'actrice vont être nus. Je me dis, mon Dieu. Et finalement, j'ai vu le film. C'est vrai qu'ils sont souvent nus, mais c'est tout à fait charmant. Alors, bien sûr, j'ai regardé la jeune fille qui me jouait nue pour savoir si elle était bien. Elle est très bien, ça tombe bien.
Mais au début d'Hiroshima, mon amour, il y a aussi une très, très belle scène de nu.
Oui, une très belle scène de nu. Et c'est vrai que Tokyo Fiancé, c'est un peu la version belge de Hiroshima, mon amour. C'est très drôle, finalement.
Alors, est-ce qu'il y a parmi vos enfants, puisque vous considérez vos livres à la fois comme des œufs et comme des enfants, des préférés?
Je vous jure que non.
Ah, mais c'est ce que disent toutes les mères.
Mais je vous jure que non. Parmi ma famille extrêmement nombreuse de 80,5 enfants, il n'y a pas de préféré. J'ai assez de lucidité pour voir qu'éventuellement certains de mes enfants sont plus beaux, que certains sont plus intelligents. Pour autant, ils ne sont pas forcément mes préférés. Même le critère de publication n'est pas un critère valable. Parmi mes livres que je ne publie pas, il y en a que j'aime tout autant que ceux que je publie. Je prétends être une bonne mère, c'est-à-dire que je prétends savoir ceux de mes livres qui sont destinés à la lumière et ceux qui ne le sont pas. Bien sûr, j'en ai jugé seule. Mon éditeur aimerait beaucoup faire ce jugement à ma place, mais je pense que ce serait une erreur. Avec toutes les limites que j'ai, je suis quand même la mère. Je crois que je peux savoir ceux de mes enfants qui aiment la lumière et ceux de mes enfants qui aiment l'ombre. Donc, je vous jure que je n'ai pas de préféré. J'ai bien vu que mes enfants n'avaient pas eu tous le même succès. J'ai bien vu qu'il y avait des chouchous du public et d'autres qui n'étaient pas des chouchous du public. Mais il s'est toujours trouvé au moins un lecteur pour me dire de chacun de mes enfants, celui-ci, c'est le mien, je l'aime. Et dès l'instant que j'obtiens cette réaction-là, Comment est-ce que cet enfant ne pourrait pas être mon préféré ? Tous mes enfants sont le préféré de quelqu'un, moyennant quoi ils sont tous mes préférés.
Et donc, lorsque vous rencontrez d'autres écrivains, est-ce que vous discutez de livres ou bien de toute autre chose, de champagne par exemple ?
C'est très la question est infiniment complexe. J'adore l'idée d'avoir des amis écrivains et c'est tellement dur parce que il y a tout ce qui ne se dit pas. Bon, je suis écrivaine best-seller. Ça fait 22 ans que je suis écrivaine best-seller. Sans l'avoir voulu et en même temps sans être contre, je suis le vecteur d'une jalousie considérable.
Oui.
Qui ne rend pas mes rapports avec les autres écrivains transparentes. J'aimerais avoir d'autres amis écrivains, mais finalement, je pense que ma relation la plus vraie avec un autre ami écrivain, c'est Petroni. Petroni est une amie écrivain. Elle me jalouse à fond. Elle me tue à la fin du roman. Je la comprends. Peut-être que si j'étais pas moi, je me tuerais, en fait.
En tout cas, elle joue carte sur table, alors que c'est vrai, on vous a fait beaucoup de rumeurs, beaucoup de mauvais procès.
Oh oui, mais c'est normal. J'ai tellement conscience de vivre ce que tout le monde voudrait vivre. Je vis mon art à fond. Écrire, c'est vraiment ma passion. C'est vraiment ce que je voulais faire. Ça a marché. J'en vis. Vous me lisez. Honnêtement, c'est sublime de vivre ça. J'en reviens toujours pas que ça me soit arrivé à moi. D'aucuns me jalousent. Ben, je les comprends. Si j'étais pas moi, je me jalouserais.
Vous en vivez et on vous en vit.
J'adore votre
Éric Emmanuel Schmitt, qui était à votre place il y a quelques semaines, disait aussi quand je vois le succès qu'ont mes livres, j'ai l'impression que c'est pas à moi que ça arrive. Est-ce que vous avez le même sentiment?
Oui, oui, je comprends très bien. J'adore Éric Emmanuel Schmitt, j'adore ce qu'il écrit, et en plus c'est un ami. J'ai adoré son dernier livre, Poison d'amour. Ça va très loin, ce livre, et c'est pas le premier de ses livres que j'adore. Je comprends très bien son sentiment. Comment n'aurait-on pas un sentiment d'imposture quand on vit ça? On se dit, c'est tombé sur moi. Il n'y a aucune raison que ce soit tombé sur moi. Qui suis-je? Qui est-ce que je trompe? En fait, je ne trompe personne. Pour un écrivain, il y a une seule façon d'être malhonnête. C'est de ne pas écrire ses livres soi-même.
Oui.
J'écrive mes livres moi-même. Moyennant quoi, je ne suis pas malhonnête. Mais c'est très difficile de s'en persuader.
Oui, d'autant plus que justement, c'est l'accusation qu'on avait portée contre vous lors de votre première publication.
Je vous rassure, c'est arrivé encore maintes fois entre-temps. Oui. Mais il y a des témoins, j'écris vraiment mes propres livres.
Mais dans Tuer le père, justement, il y a aussi ce thème de la triche, hein, de ce qui est autorisé à un magicien ou interdit, et ce que le père interdit à son fils spirituel.
Oui, écoutez, c'est pas un hasard que j'ai écrit Tuer le père, qui est d'ailleurs un de mes livres qui a été le plus attaqué par la critique. Il faut bien le dire, à un moment, c'est exactement comme de la magie en ceci qu'il y a un truc. La grande différence avec la magie, c'est que je ne connais pas le truc. Je vous jure, je ne le connais pas. Je continue de le faire, mais je ne le connais pas. Je vis dans l'angoisse de le perdre, mais je ne le connais pas.
Oui, je crois que tous les écrivains vivent dans cette angoisse de ne pas pouvoir continuer.
Oui.
Et c'est aussi pour ça que certains fuient les prix, par exemple.
Au moins, c'est beaucoup plus simple.
Vous en avez reçu beaucoup.
Les prix me fuient maintenant.
Non, vous en avez reçu beaucoup. Et Tuer le père, c'est un de mes livres préférés.
Vous me faites tellement plaisir, parce que ça a été le livre qui a été le plus attaqué. C'est un livre très important, Tuer le père, parce que dans Tuer le père, qu'est-ce que je voulais faire? C'était un tour de magie qui se passait, comme tous les tours de magie, qui se passait devant vous. C'est-à-dire que tout se passe devant vous. Le trucage a lieu devant vous. Je suis honnête et vous n'avez rien vu. Je pense que la bonne réaction quand on a lu Tuer le père, c'est de le relire tout de suite pour voir « Ah non, d'un chien, ça s'est passé devant mes yeux et je n'ai rien vu. » Je vous jure que quand j'écris un livre, c'est la même chose. Je fais tout. Rien dans les mains, rien dans les poches, devant vous. C'est pas grand-chose, mais ça a quand même lieu devant vous, et vous n'avez rien vu.
Alors, à propos de main, justement, est-ce que vous écrivez à la main, ou bien est-ce que vous avez
un
ordinateur?
Ah non, non, alors, je vis avec quelqu'un qui possède un ordinateur. Je ne sais même pas comment ça marche. La seule fonction de l'ordinateur que je connais, c'est la météo. D'ailleurs, cette fonction est mensongère. Je ne sais pas ce que c'est qu'un ordinateur. J'écris à la main. Il y a des témoins. Je suis, à ma connaissance, le seul écrivain de best-seller qui apporte à son éditeur le manuscrit écrit à la main.
Oui, oui, vous dites que vous êtes toujours une étrangère en France, que vous avez du mal à comprendre les codes, les coutumes, mais en même temps, vous bougez les lignes, parce que, par exemple, Albin Michel vous réserve un bureau, c'est quand même pas courant.
Oui, mais là encore, j'ai obtenu ce bureau chez Albin Michel. Je suis, à ma connaissance, le seul écrivain qui a un bureau chez son éditeur sans pour autant exercer aucune fonction éditoriale. Mais le mode opératoire n'a pas été simple. De 1997 à 2001 ou 2002, tous les jours, je suis allée chez mon éditeur, tous les jours, faire du sitting. Quand je dis faire du sitting, c'était faire du sitting, c'est-à-dire que je m'asseyais là où il y avait une place libre, je m'asseyais sur l'escalier, je m'asseyais aux toilettes. On m'en a beaucoup voulu. Je m'asseyais là où il y avait une place libre. Et parfois, des gens d'Albin Michel venaient me demander « Vous avez un problème chez vous? Vous n'êtes pas contente chez vous? Pourquoi venez-vous là tous les jours ?» Et je n'avais pas l'explication à formuler. La seule explication que j'ai, c'est que je ne peux pas écrire mon courrier au même endroit où j'écris mes romans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la même opération. Mes romans, je les écris chez moi. Mon courrier, je l'écris chez mon éditeur. Après 5 ans de ce petit manège, mon éditeur ne pouvait plus me voir en peinture, mais quelle est cette personne qui vient s'asseoir sur notre escalier, dans nos toilettes, etc. Une jeune femme des éditions Albin Michel est partie accoucher, moyennant quoi elle a libéré son bureau. Là, mon éditeur m'a dit « Maintenant, vous allez dans ce bureau et vous n'en bougez plus. » J'ai obéi. Je suis allée dans ce bureau. J'y retourne tous les jours.
Bien, merci d'avoir répondu à ces questions telles qu'en vous-même, en fait.
Merci.
Merci infiniment.
Merci, Sylvie.